Alors qu'il nous reste encore plusieurs semaines d'hiver, c'est le fun de commencer de plus en plus à parler de golf. Je vous parlais de Tiger Woods hier. Torrey Pines est en plein déroulement. Va-t-il gagner? On verra. Mais un autre événement de golf a attiré l'attention de bien des Québécois et d'amateurs de golf de partout dans le monde. Ce trou d'un coup réalisé par un Québécois qui joue au golf avec seulement un bras. Et il s'agit de notre invité d'ailleurs ce soir, amateurs de sport, nul autre que Laurent Hurtubise. Hurtubise, ça sonne familier dans le monde du golf au Québec. Laurent Hurtubise, bonsoir.
Bonsoir, ça va bien.
Ça va très bien, toi?
Oui, très bien.
Hey, c'est tout un événement, ça. Un trou d'un coup d'un bras dans un événement de la PGA. Ça fait le tour du monde. Donc, vous êtes rendu une vedette du golf, là, Laurent. Là.
Ben oui, malgré moi, en dedans de 5 minutes, une vie change. Hein?
C'est incroyable. Avez-vous oui. l'impression que tout à coup, ça change un petit peu votre vie?
Oui, effectivement. Beaucoup. Ouais.
De quelle
beaucoup.
Façon?
Écoute, je suis en demande partout. Mais ce qui a été le plus difficile, c'est de jouer les deux dernières rondes. Parce que le trou d'un coup est arrivé lors de la première ronde. Mon deuxième 9, parce que j'avais commencé sur le 9 de retour. Puis quand je suis arrivé au 4e trou, qui était mon 13e trou, fait le trou d'un coup. Les 4-5 autres trous après, c'est juste que le mot se passait. Mais le lendemain et le samedi, tout le monde qui me croisait disait « Hey, that's the guy that made the hole in one! » Alors là, c'était selfie, fist pump. Puis là, après ça, tu dis « OK, il faut que je mette ma balle sur le tee, puis il faut que je la frappe. »
C'est difficile pour la concentration.
Ah ouais, faut-tu redescendre, là?
Ouais.
C'est pas évident.
C'est un gros high, hein?
Oui.
La casquette
oui.
envolée d'un
ah, oui, oui. Oui, c'était quelque chose.
Racontez-moi le moment. Premièrement, juste mettre ça en perspective et dans le contexte. Quand je dis que c'est un tournoi de la PGA, c'est vraiment un tournoi de la PGA. Mettez-nous ça en perspective. Ça se déroulait dans le désert de la Californie, à La Quinta, précisément.
Effectivement.
C'est le troisième tournoi de l'année, c'est quoi
le troisième tournoi de l'année? Le premier tournoi étant le Kapalua avec les champions de l'année précédente. Le deuxième tournoi, le Sony Open à Hawaii. Et le troisième, c'est l'ancien Bob Hope Classic qui existe depuis une soixantaine d'années. Je sais pas, je peux me tromper, mais c'est devenu avec le temps le American Express Pro-Am. Mais ça a toujours été un Pro-Am. C'est le seul tournoi du PGA Tour où Monsieur Tout-le-Monde peut jouer dans ce Pro-Am-là qui est disputé pendant le tournoi. Alors, le jeudi...
C'est pas une ronde avec des célébrités le mercredi puis le gros tournoi ensuite. Là.
Non,
vous
c'est ça.
Donc, vous étiez jumelé à des joueurs qui, eux autres, calculaient leur pointage puis ça comptait pour une bourse de 1 million et plus. Là.
Exact. Puis j'avais à aller dans la roulotte après pour signer mon score avec le professionnel qui avait rentré mon score. Et, tu sais, comme le jeudi, je jouais avec Troy Merritt. Le vendredi, je jouais avec Tyler McCumber. Et le samedi, je jouais avec Brian Gay. Alors, c'était mes partenaires de jeu. Leur balle comptait pour moi.
Et pour participer à un programme comme celui-là, j'imagine qu'il faut débourser un certain montant d'argent.
Oui, il faut débourser de l'argent qui s'en va. Comme dans le cas de ce tournoi-là, les profits qui sont générés par ce que les amateurs payent vont à la fondation Mickelson.
Ah, et Phil Mickelson était là, lui oui, aussi, il oui. participait.
Oui.
Et c'est pas une première, mais là, remettez-nous dans le contexte de votre trou d'un coup, à quel trou ça se passe, c'est la première ronde, puis quand tu te rends compte que ça rentre, Laurent, là.
Oui, ben en fait, je vais reculer au trou d'avant. Le troisième trou, c'est un trou où on avait un coup, mon amateur partenaire et moi. En fait, je jouais avec un amateur du Kentucky, qui jouait contre moi, parce qu'en fait, moi je veux finir premier, puis lui aussi. Puis lui, à ce trou-là, il y avait un coup. Puis, il a fait un birdie, puis ça lui a donné un aigle. Alors, moi, je m'en vais à pied, à l'autre trou, tranquillement, pas vite. Je suis dans ma bulle, puis je me dis, il faudrait bien que j'en fasse un eagle, moi aussi.
Ce serait pas pire. Hein?
Là, j'arrive au tee, puis on suivait toujours l'ordre de frappe des pros. Alors, Troy Merritt frappe en premier, moi, je devais frapper premier. Mais là, Joe Pusateri, qui était l'autre amateur, il était déjà installé. Et il me regarde et dit, « Ah, c'est à toi à y aller, Laurent. » Il dit, « Excuse-moi. » Il dit, « Vas-y. » « Non, 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 t'es déjà prêt. » Vas-y, tu viens de faire un birdie, tu le mérites. Alors, il frappe sa balle, puis sa balle, elle va sur le verre. Mais moi, je m'installe après. Mon cadet, il me dit, en anglais, il dit, c'est un fair 6 parfait pour toi. Il faut que ta balle, elle tombe à 142-143 verges. La pin est à 151 verges. Ta balle, elle roule, elle va rouler. Il dit, installe-toi, puis essaye de faire ton petit fade de droite à gauche. Parfait. Je m'installe, je m'enligne comme je fais d'habitude, là. En amateur quand même, là. Mais on s'enligne toujours pour faire la meilleure shot possible, comme on dit. Puis je me dis, lorsque j'adresse la balle, je me dis, Laurent, regarde ta main passer en bas, lève pas ta tête. Alors quand ma main a passé en bas, là je me suis levé la tête, la balle était déjà rendue à mi-chemin, puis elle a commencé à tourner un peu de droite à gauche. Je l'ai vu tomber peut-être 4-5 verges sur le verre. Puis là, elle roulait. Puis là, les quatre joueurs, on la regardait rouler. Puis on disait pas un mot. Puis là, on a entendu un petit clonk. Puis là, les gens à l'autre bout, ils ont crié. Puis en même temps, nous, on l'a vu disparaître. Et là, on a tous crié, sauté dans les airs. Moi, j'ai lancé ma casquette. C'était inoubliable comme moment.
Hey, je comprends,
ouais,
donc.
Ouais, ouais, vraiment.
Et sur le coup, même les pros de la PGA, même s'ils sont concentrés dans leur vrai tournoi, ils sont embarqués dans la fièvre du moment, là. Hein?
Définitivement. Troy Merritt, il est arrivé puis il m'a dit, écoute, it's the most incredible shot I've seen in my career.
C'est pas pire, ça.
Tu sais, venant d'un gars qui a gagné des tournois, qui joue sur le tour,
C'était un premier trou d'un coup en carrière, Laurent?
Non,
parce que là, on va découvrir que...
un troisième.
Troisième fois,
oui,
un trou d'un,
oui,
coup.
Mais c'était effrayant, celui-là. Là.
Laurent, les gens... Peut-être qu'il y en a qui font le lien, mais ceux qui suivent le golf de près savent que t'es le frère de Marc Urtubise.
Oui.
Marc est un professionnel bien connu au Québec, actuellement au parcours du Vieux-Village, dont il est devenu, je pense, même actionnaire.
Oui.
Il était à Chambly auparavant. Donc, le golf, vous autres, c'est dans la famille. Depuis longtemps, t'as commencé à jouer à quel âge?
J'avais 11 ans quand j'ai commencé à jouer. Puis, je vous dirais que quand j'ai eu 35-40 ans, Marc, il m'a dit, là, je vais te donner des cours. Je vais te montrer comment rentrer dans la balle pour la frapper plus loin. Je vais te montrer comment sortir des trappes, parce que moi, une trappe de sable, c'était 2-3 coups là-dedans. Puis, il y a quelques années, j'ai joué avec Billy Horschel dans ce même tournoi-là. Puis, il m'appelait l'expert des trappes.
Fait qu'il y a toujours moyen de s'améliorer,
oui,
même passer la quarantaine,
oui,
avec les conseils d'un bon pro qui s'adonne à être votre frère. C'est pas mal fascinant comme histoire. Jouer au golf avec un bras quand on a 11 ans, on recule, on est en quelle année à peu près, là?
En 69.
En 1969, est-ce que, je veux dire, c'était-tu facile d'avoir accès à un terrain? Je veux dire, les parents... Parce que là, Marc jouait... Je sais pas si Marc est plus jeune ou plus,
ouais,
vieux.
Marc est plus jeune de 5
ans. OK, Marc est plus jeune.
Ouais.
Fait que vous êtes l'aîné?
Ouais. Non.
Il y en a deux plus vieux.
Ouais.
Fait que là, quand vous dites je veux jouer au golf, les parents, comment ils accueillent ça? Parce qu'ils savent que, j'imagine, avec un bras, c'est pas naturel, c'est pas évident.
Bonne question, M. Langlois. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit « go, vas-y ». Quand j'ai dit à mes parents, j'avais 6 ans, j'ai dit « j'aimerais ça jouer au hockey », mon père faisait une patinoire dans le cours. Ils m'ont dit « ben, pas de problème, on va te mettre des patins ». Quand je suis arrivé l'été d'après, j'ai dit « j'aimerais ça jouer au baseball », ma mère a dit, il n'y a pas de problème, tu veux jouer au baseball, on va t'inscrire. Puis quand je suis arrivé à ma première journée de baseball, je me rappelle encore du nom du coach, M. Normandin. C'était un pharmacien de Richelieu, parce qu'à ce moment-là, on jouait Chambly, Carignan, Richelieu ensemble. Puis il m'avait dit, toi, mon petit Laurent, il dit, quelle position t'aimerais jouer? Ben, je dis, moi, premier but ou receveur? Il dit, ah ouais, pourquoi? Ben, parce que je veux la balle souvent. Alors, il dit, OK, on va t'essayer receveur. J'ai été receveur jusqu'au rang midget.
Wow.
Ouais.
C'est de naissance?
Oui,
c'est une malformation de naissance?
C'est de naissance, oui.
C'est de naissance?
C'est un mystère de la nature.
Mystère de la nature. Ça a été quoi de grandir pour vous? Parce que vous semblez tout à fait épanoui, Laurent. Un homme heureux, une belle carrière professionnelle. Quand on est moyen de s'inscrire dans des programmes comme ça aux États-Unis, je pense que c'est un indice que ça va bien. Est-ce que ça a été un gros challenge de faire face au regard des autres?
Mais ça a toujours été un gros challenge, mais ça a été plus un challenge de prouver aux autres que j'étais aussi bon ou meilleur qu'eux, malgré mon handicap.
Compétitif.
Oui. Alors pour moi, de pratiquer des sports, c'était une manière de leur montrer que, regarde, j'en ai juste une, mais check là-bas, allez. C'est ça.
C'est bon, ça.
Oui.
Et c'est inspirant en même temps, parce que là, d'ailleurs, la PGA a mis la vidéo du trou d'un coup que vous avez réalisé là, dans ce tournoi-là en ligne, puis en parlant d'un moment inspirant. Et ça a fait le tour. Hein,
Ah, oui.
Ça fait des années, la première fois que vous êtes inscrit dans un tournoi comme ça fait longtemps, dans un programme?
En 2011, le Disney Classic, qui se jouait sur le Palm et le Magnolia, les deux terrains majeurs qui appartiennent à Disney,
ouais,
à Lake Bonavista. J'ai joué en 2011-2012, puis là, en 2013, le tournoi n'existait plus, parce que le commanditaire principal, qui était Walmart, s'était désisté, parce que les fonds de ce tournoi-là allaient à Opération Enfant-Soleil. Alors moi, ça me faisait un petit baume de jouer dans un tournoi où je payais, mais que je savais qu'il y avait de l'argent qui revenait aux Montreal Children, puis à Sainte-Justine, par la bande, parce qu'ils font partie de ce réseau-là. Alors, j'ai dit, j'aimerais ça trouver un autre tournoi que je peux jouer dans un pro-am. Puis c'est là que j'ai trouvé le tournoi qui s'appelait le Humana Challenge, l'ancien Bob Hope Classic, qui est devenu la Amex cette année.
Et là, depuis ce temps-là, c'est un rendez-vous régulier. C'est mais vous avez attiré l'attention d'autres personnes parce que vous me racontiez avant d'arriver dans l'entrevue que vous avez même été invité comme conférencier par rapport à un événement de golf. Puis là, vous avez côtoyé des gens comme Johnny Miller et compagnie. Pouvez-vous me résumer ça, cette expérience-là? Ouais,
en fait, ça, c'est arrivé en 2013. Probablement, je sais pas, janvier 2013. Et je voulais jouer dans la AT&T. À Pebble Beach. J'ai appelé pour jouer, puis ils m'ont dit « The field is complete, il n'y a pas de place, puis c'est juste des stars qui jouent là-dedans. » Ben, j'ai dit « Vous pouvez regarder mon nom sur Google, moi je pense que je suis une star. » Oui, mais tu sais, c'était candidement.
Ben oui,
puis là,
oui.
Ils m'ont rappelé, puis ils ont bien vu que j'avais gagné le championnat nord-américain One Arm Golf à la Vallée du Richelieu en 2006, que j'avais gagné en 2008 au Kentucky la Fight Master Cup dans l'équipe nord-américaine contre l'Europe. Alors, on était champion mondial, et etc., etc. Mais ils m'ont rappelé, ils ont dit, on n'a pas de place, mais le chairman de la Monterey Peninsula va t'appeler, puis il y a quelque chose à t'offrir. Ils m'ont offert de jouer dans le tournoi du Champions Tour, qui est à Pebble Beach en septembre, et qui se joue avec des jeunes du First Tee Movement aux États-Unis. Les jeunes sont un jeune pour un pro, puis un amateur. Alors, on joue en équipe de trois meilleures balles. Puis le mercredi, avant le tournoi, il y a un souper gala où les 81 joueurs sont là du Champions Tour, les 81 jeunes du First Tee et les 9 personnes qui vont parler des 9 valeurs véhiculées par le First Tee Movement, à part d'enseigner le golf. Et ils m'ont demandé de parler sur la persévérance. Alors, j'étais capable.
Ben, je comprends donc, parce que ça. Vous êtes vraiment inspirant, puis c'est un exemple de persévérance, puis vous venez de l'évoquer, puis je savais que j'allais vous en parler, parce que avant qu'on fasse l'entrevue, vous me disiez, Laurent, que vous avez gagné des tournois, puis je savais pas qu'il y avait un circuit de golfeurs amputés, de golfeurs à un bras. Est-ce que vous êtes nombreux dans le monde ou en Amérique à jouer au golf avec un seul bras?
Oui, il y en a plus qu'on pense.
Ouais, oui, avez-vous une idée?
Oui. Ben, écoutez, à chaque année, il y a un tournoi annuel, là, comme là, c'est en juin d'habitude. Cette année, c'est dans la région de Boston. Puis, règle générale, là, il y a une cinquantaine de joueurs qui se présentent au tournoi. Puis là, selon le classement que tu as dans le tournoi, tu as des points, un peu comme pour la Ryder Cup. Puis si tu as 7 points, ben tu fais partie de l'équipe Fight Master Cup pour jouer contre l'Europe à toutes les 2 ans.
Wow.
Il y a un moment donné, ça se joue en Amérique du Nord.
Mais tout ça, ça s'est déclenché après les leçons de Marc. Donc, après 40 ans, vous êtes devenu vraiment un très bon golfeur à un bras.
Oui.
Y aviez-vous déjà dit à Marc, t'aurais pu me donner des leçons avant?
Non, mais j'en suis très reconnaissant. Ouais.
En matière de golf, calculez-vous votre handicap?
Oui, j'ai 8 d'handicap.
Ah, 8 d'handicap.
Oui.
Puis comme ça, là, vous utilisez tous les bâtons, le driver, tout, puis des bonnes distances? Je suis curieux.
Oui, un driver, je vais frapper à peu près 230 verges avec un driver.
Ben voyons donc.
Un 5-6, là, comme...
61 ans, d'une main, un driver, direct dans le fairway, à 200...
Oui,
200 comment?
230. Puis je vais vous dire, mon cadet, après la ronde où j'ai fait mon trou d'un coup, il dit, tu sais-tu que t'as frappé 14 fairway sur 12 fairway sur 14?
Aïe, aïe.
Ouais. Moi, je check pas ça, mais lui, il checkait ça. Là.
Mais ça doit créer tout un lien. Marc et vous, Laurent, comme
le
je dis...
Le golf, ah oui, mais oui.
Hein?
Définitivement.
Est-ce qu'il vous reste un rêve?
De jouer dans la AT&T.
Oui, le tournoi des grosses vedettes, oui.
Puis,
on prend goût à ça, là.
Oui, honnêtement, M. Langlois, là, je le disais tantôt, mais j'ai commencé à mettre sur pied avec mes comptables il y a 5 ans, la Fondation Laurent Tubiz. Puis je veux me servir de ce qui est arrivé comme tremplin pour donner l'accès de plus en plus à des jeunes enfants handicapés au sport pour qu'ils puissent se démener, puis montrer qu'ils sont capables de faire autant que les autres. Puis si la Fondation Laurent Tubiz peut les aider, moi, je suis là pour ça.
Ben, bravo. Je ne connaissais pas l'existence de cette fondation.
Elle n'est pas sur pied encore, mais on est en train de la monter.
OK, ben ouais. C'est une excellente initiative. Puis je me demandais comme ça, c'est drôle, dans un autre sport, mais quand vous-même, vous avez vu, Laurent, comme dans le baseball, un Jim Abbott arrivé dans le baseball majeur, avez-vous été inspiré?
Ah ben oui, définitivement. Moi, d'ailleurs, quand je pratiquais le hockey, le golf, puis je me voyais toujours dans la Ligue nationale. Quand j'ai vu ce gars-là dans la Ligue nationale, je disais, hey, ça serait-tu fort que moi, je serais son receveur? Ça aurait pu arriver.
On sait jamais.
Mais quand je pratiquais un sport, je me voyais dans la Ligue nationale comme tout petit gars qui joue au hockey, là. Il se voit le Wayne Gretzky ou le Sidney Crosby ou etc.
Qui va m'empêcher de rêver?
Ben, c'est ça. Puis, quand je joue dans ces tournois-là, le but premier pour moi de jouer dans ces tournois-là, c'est de la reconnaissance et le ce que ça m'apporte comme estime de moi. Parce que les pros, ils nous font vraiment sentir comme un de la gang. Puis quand je joue là-dedans, c'est comme si j'étais sur le PGA Tour.
Ça fait-tu du bien?
Oui. Tu sais, moi, je reviens de là, puis je mesure 8 pieds.
Même s'il n'y a pas eu de trou d'un coup.
Ah, même s'il n'y a pas eu de trou d'un
fait
coup.
Fait que là, après un trou d'un coup, puis une couple de millions de visionnements sur la planète, ouais, vous êtes là, à quoi?
Là, j'étais à 9 pieds et demi du pied.
Ah, oh, quelle histoire. Ben, ouais. Laurent, on va se revoir. Ça m'arrive d'organiser des événements de golf, moi. Genre lancement de saison des amateurs de sport, tout ça. Fait que c'est un rendez-vous.
Ça va me faire plaisir.
On va garder le contact, puis on va se revoir. C'est garanti. C'est écrit dans le ciel, puis je suis très content de vous avoir rencontré.
Ben, merci beaucoup de l'opportunité.
Bravo, Laurent Urtubise. Merci beaucoup. Et on a hâte que la saison commence au Québec. Il nous reste une couple de semaines d'hiver. Hey, mais parce que là, je sais pas si c'est indiscret, mais je suis sûr qu'il y a bien du monde dans leur auto qui disent, hey, tu sais, mettons, moi, je voudrais vivre ça. Ça coûte une beurrée, là, mais c'est accessible. Je sais que le AT&T, vous me dites, c'est pas halable, hein. C'est une fortune, ouais, aller là. Ouais. Faut que tu sois invité.
Oui.
Mais quand tu payes pour aller là, ça coûte combien?
Ben, je suis un petit peu mal à l'aise de dire combien ça coûte parce que c'est pas donné à tout le monde.
Okay.
Puis moi, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui va bien, d'avoir des employés qui travaillent bien pour nous puis qui font en sorte que l'entreprise va bien. Puis c'est la traite que je me paye.
C'est votre récompense.
C'est ça. C'est ma récompense. C'est comme on dirait, c'est...
Ça a pas de prix.
C'est ça. C'est, je pourrais faire l'annonce de Mastercard puis dire « Hole in one during a PGA Tour event, priceless.
» C'est ainsi que ça se termine. Merci, ouais. Laurent Urtubise.
Merci.
Au revoir. C'était Laurent Urtubise, notre invité aux amateurs de sport. Bonsoir les sportifs dans quelques instants. À demain, 18h30. Ciao tout le monde.